Dieu, quelle intelligence, quelle persévérance, quelle rencontre avec l'invraisemblable, tout comme leurs ancêtres représentés sur les bas-reliefs avaient vu des choses à peine plus croyables, invertébrés, végétaux, monstruosités, descendants des étoiles. Quoi qu'ils aient pu être, ils étaient aussi des hommes. Ils avaient traversé ces pics glacés dont ils avaient jadis sillonné les pentes couvertes de palmiers et où ils avaient adoré leur Dieu dans leurs nombreux temples. Ils avaient trouvé leur ancienne ville prisonnière de sa malédiction et, tout comme nous, avaient contemplé les sculptures décrivant sa lente agonie. Ils avaient tenté de rejoindre leurs semblables survivants dans ce fabuleux gouffre de ténèbres qu'ils n'avaient jamais vu. Et qu'avaient-ils trouvé? Tout ceci traversa simultanément nos esprits à Danforth et à moi, tandis que nos regards passaient de ces formes décapitées couvertes de bave aux ignobles palimpsestes sculptés et aux diaboliques groupes de points tracés sur le mur à l'aide de la même substance luisante. Et c'est alors que nous avons compris ce qui devait avoir triomphé et survécu là en bas, dans la cité sous-marine cyclopéenne, au fond de ce sombre gouffre d'où, à ce moment même, sourdaient des volutes de brume pâle comme en réponse aux cris hystériques de Danforth. Le choc provoqué par la vision monstrueuse de cette bave et de ces décapitations nous avait transformés en statues muettes et immobiles, et ce n'est qu'en discutant ultérieurement que nous avons pu reconstituer nos pensées à ce moment précis. Il nous a semblé rester figés ainsi pendant une éternité, mais en réalité, ce moment n'a pas pu durer plus de 10 ou 15 secondes. Cette détestable brume pâle s'avançait, déployant ses volutes, comme si elle était réellement poussée par quelque masse en mouvement, puis a retenti un bruit qui est venu bouleverser toutes nos décisions, et en même temps briser le sort qui nous statufiait, nous permettant de partir en courant comme des fous au milieu des cris rauques des pingouins affolés. Nous avons repris à l'envers le chemin qui nous avait amenés ici pour regagner la ville, dévalant les couloirs mégalithiques enchâssés dans la glace qui menaient au grand cirque, pour enfin gravir l'antique escalier en spirale en une course frénétique et machinale vers la normalité du monde extérieur, de l'air et de la lumière du jour. Comme je l'ai dit, ce nouveau son est venu bouleverser tout ce que nous avions décidé. Car c'était celui que, d'après la dissection effectuée par ce malheureux Lake, nous avions attribué aux êtres que nous venions de croire morts. Comme Danforth devait me le dire plus tard, c'était exactement ce qu'il avait cru entendre, sous une forme infiniment étouffée à l'angle de la ruelle au-dessus du niveau des glaces, et on ne pouvait manquer de noter une ressemblance étonnante avec les gémissements du vent que nous avions perçus près des entrées des cavernes sur les flancs des montagnes. Au risque de sembler puéril, j'ajouterai encore autre chose, ne serait-ce qu'en raison de l'étrange façon dont les impressions de Danforth se sont trouvées correspondre aux miennes. Bien sûr, ce sont nos lectures communes qui nous avaient prédisposé une telle interprétation, bien que Danforth ait mentionné à demi-mot les sources interdites et insoupçonnées auxquelles Poe avait dû avoir accès avant d'écrire les aventures d'Arthur Gordon Pym un siècle plus tôt. On se souvient que dans ce conte fantastique, il y a un mot à la signification inconnue et pourtant terrible et prodigieuse, un mot en rapport avec l'Antarctique, éternellement répété par les oiseaux géants au plumage spectral qui habite le cœur de cette région maléfique. Tekeli-li, Tekeli-li. Je dois l'admettre, c'est exactement ce que nous avons cru percevoir dans le bruit soudain qui nous parvenait à travers la brume blanche et mouvante, ce sifflement musical insidieux décrivant une gamme singulièrement étendue. Avant même d'avoir entendu 3 notes ou 6 syllabes, nous courions déjà à toute allure, même si nous savions bien que les anciens étaient si rapides que n'importe quel survivant du massacre alerté par le cri nous aurait rattrapé en un clin d'œil s'il s'était lancé à notre poursuite. Néanmoins, nous entretenions le vague espoir qu'un comportement non agressif de notre part et la constatation que nous sommes des êtres raisonnables tout comme eux pousserait de tels êtres à nous épargner s'ils venaient à nous capturer, ne serait-ce que par curiosité scientifique. Après tout, s'ils n'avaient rien à craindre pour leur sécurité, ils n'auraient aucune raison de nous faire du mal. Comme nous ne pouvions plus espérer nous cacher, nous nous sommes servis de nos torches pour jeter un coup d'œil derrière nous, et nous avons constaté que la brume se dissipait. Allions-nous enfin voir un de ces êtres vivants et complets? À nouveau le sifflement familier s'est fait entendre. Tekeli-li, Tekeli-li. Puis, remarquant que nous gagnions du terrain, nous nous sommes dit que l'entité était peut-être blessée. Néanmoins, nous ne pouvions prendre le moindre risque, puisqu'il était évident que loin de fuir d'autres créatures, Elle avait été attirée par le cri de Danforth. Son arrivée l'avait suivie de trop près pour laisser place au doute. Quant à ce qu'il était advenu de cet autre cauchemar innommable et encore moins concevable, cette montagne de protoplasme fétide sécrétant sa bave, dont la race avait conquis le gouffre et envoyé des éclaireurs qui avaient refait les bas-reliefs et s'étaient infiltrés dans les terriers sillonnant les collines, il était impossible de le dire. C'est avec une douleur sincère que nous nous sommes résolus à abandonner cet ancien, probablement estropié et peut-être le seul survivant de son espèce, à un sort abominable. Dieu merci, nous n'avons pas ralenti. La brume s'était épaissie et progressait avec une rapidité croissante, tandis que derrière nous, les pingouins piaillaient, hurlaient et montraient des signes de panique surprenants, étant donné leur peu de réaction lorsque nous étions passés près d'eux. Le sinistre Tekelili nous est encore une fois parvenu. Nous nous étions trompés. La créature n'était pas blessée, mais s'était juste arrêtée pour examiner les cadavres de ses semblables et l'inscription infernale tracée au-dessus d'eux avec de la bave. Nous ne pouvions savoir quel message démoniaque elle délivrait, mais les tombes au camp de Lake montraient le soin que ces êtres accordaient à leurs morts. Nos torches que nous utilisions sans grande prudence ont révélé droit devant nous l'immense caverne où débouchaient les différents tunnels, et c'est avec joie que nous avons laissé derrière nous ces palimpsestes morbides dont la présence se fit toujours sentir même quand nous ne pouvions les voir. La vue de cette caverne nous a inspiré une idée. Nous pourrions tirer parti de la convergence des vastes galeries pour semer notre poursuivant. Plusieurs pingouins albinos aveugles erraient dans l'espace ouvert, et de toute évidence, l'approche de l'entité les rendait fous de panique. Si nous traversions ce lieu en baissant la puissance de nos torches au minimum, tout en les gardant braqués droit devant nous, les cris rauques des grands oiseaux terrifiés s'agitant dans la brume couvriraient le bruit de nos pas, camoufleraient notre véritable destination et enverraient la créature sur une fausse piste. Dans les volutes de brouillard, le sol brut, jonché de débris du couloir principal, bien différent des autres tunnels dont le sol était d'une propreté morbide, n'offrait aucun moyen pour se repérer, même pour les sens affinés des anciens qui les rendaient partiellement indépendants de la lumière. En fait, nous craignions un peu de perdre notre chemin dans notre hâte, car bien sûr nous avions décidé de continuer tout droit vers la cité morte. Si nous venions à nous égarer dans les couloirs inconnus sillonnant les collines, les conséquences en seraient inconcevables. Le fait que nous avons survécu et que nous sommes sortis de ce piège suffit à démontrer que la créature a pris le mauvais tunnel, tandis que, par chance, nous nous engouffrions dans le bon. Les pingouins seuls n'auraient pu suffire, mais leur présence jointe à celle de la brume semble nous avoir sauvés. Seul un destin favorable a pu rendre le brouillard opaque juste au bon moment, car celui-ci ne cessait de changer de consistance et menaçait de s'évanouir. En fait, il s'est bel et bien levé pendant un bref instant, juste avant que nous ne quittions la galerie abominablement sculptée pour entrer dans la caverne, nous permettant d'entrevoir pour la première fois l'entité qui nous poursuivait, au moment où nous avons jeté un ultime regard apeuré en arrière, avant d'éteindre nos torches et de nous mêler aux pingouins dans l'espoir d'échapper à sa poursuite. Si c'est un destin bienveillant qui nous a dissimulés, celui qui nous a permis d'apercevoir cette chose était tout sauf bénin, car cette simple vision est à l'origine d'une grande partie de l'horreur qui, depuis, n'a jamais cessé de nous hanter.